Fanny, vous avez aimé votre étude cet après-midi? Vous commencez à vous habituer à être solitaire dans vos chambres? Vous apprenez aussi un peu à vous connaître dans les groupes? Bien, nous remettons tout cela entre les mains de Dieu, en lui demandant de nous donner encore son aide par son esprit et sa lumière dans nos cœurs et aussi cette joie et cette paix dont nous avons parlé. Dieu notre Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire et ce que nous voudrions contempler au milieu de nous, c'est la personne de ton Fils, de celui que tu contemplais du haut du ciel, au milieu des hommes, et qui te faisait dire, c'est mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon plaisir. Oh, que nous puissions entendre cette voix et découvrir qu'en Jésus, nous aussi, nous pouvons trouver notre plaisir et que ce plaisir sera le plaisir de Dieu en nous. Dieu, le Dieu bienheureux, nous donnant son propre bonheur. Que tu permettes que tous ceux qui sont ici, que toutes celles qui sont ici, aujourd'hui, puisse te faire éperdument confiance et savoir qu'en Jésus, nous possédons vraiment la vie véritable. Dissipe toute autre crainte et donne-nous la joie de recevoir le trésor du ciel dans notre cœur. Pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, en cet après-midi du 5 octobre, tout à l'heure, quand j'étais en prière dans le bureau, je me disais, mais nous n'avons fait qu'effleurer ce matin des vérités vraiment merveilleuses. Je voudrais vous en rappeler quelques-unes. Parce que ce qui compte pour moi, c'est pas tellement cette retraite, hein. C'est l'après-retraite, c'est ce qui va se passer en vous, après que vous aurez passé cette retraite. Je demande à Dieu que, réellement, ce qu'il a fait dans le cœur de Marie, la mère bénie de notre Seigneur, se reproduise en vous. Vous savez qu'une des grandes leçons que Marie nous a données, c'est que tout ce qu'elle entendait des paroles du Seigneur, il est dit qu'elle les repassait dans son cœur. Et voyez-vous, plus vous repasserez ces paroles dans votre cœur, plus vous serez illuminé par cette parole, plus elle deviendra compréhensive pour vous. Et vous serez éclairé. Cette parole deviendra vraiment une lampe à votre pied et une lumière sur votre sentier. Vous bénéficierez, après cette retraite, de merveilles qui s'échelonneront dans vos journées, que vous passerez de nouveau dans votre propre milieu. Bien, je pensais ce matin, qu'est-ce que nous avons appris au sujet de ce que le Père donne dans ces premiers versets? Qu'est-ce que le Père nous donne? Ce Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre véritable Papa, puisqu'on peut dire Abba, Père, qu'est-ce qu'il nous donne? On a vu qu'il nous donne la grâce et la paix. Puis, nous qui sommes des parfait, incapable, il nous rend capable. C'est quand même formidable. Hein? Le Père nous rend capable. Il n'est pas là pour nous paralyser. Hein? Ce n'est pas un surmoi, notre Père des cieux. Il nous rend capable. Et puis, on a lu aussi qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y a la puissance des ténèbres aujourd'hui. Eh bien, il nous en a délivrés. Et Saul de Tarse, quand il est tombé sur le chemin de Damas, il dit qu'il a entendu la voix du Seigneur qui lui disait qu'il l'envoyait pour délivrer les âmes de la puissance des ténèbres, du pouvoir de Satan, pour les faire passer au pouvoir de Dieu. C'était la mission qu'il avait reçue, et on voit que vraiment, il réalisait cette mission. Il dit au Colossiens, mais voilà, vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Cette puissance n'a plus à dominer sur vous. Vous êtes libérés. C'est cela que vous avez en Christ. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait encore, ce Père? Il nous a transportés. On parle beaucoup des transports. Il y a des ministres, des transports qui démissionnent. Mais nous, nous avons... Il n'y a pas de démission. Nous sommes transportés. Et c'est quelque chose de fantastique. Il nous a transportés de ce royaume des ténèbres dans lequel nous étions pour nous faire entrer dans le royaume du Fils de son amour, de son Fils bien-aimé. Vous participez maintenant à ce royaume. Alors, vivez d'une façon royale. Marchons d'une façon royale, puisque vous êtes roi et sacrificateur. Voilà un peu tout ce que vous pouvez repasser dans votre cœur. Mais ça, c'est très simple. Mais vous relisez ces textes, puis ces choses vous seront rappelées par le Saint-Esprit et se fixeront dans votre sensibilité. Vous avez un Père qui est éternel. Un Père auquel on ne peut pas toucher. C'est un Père de lumière, alors marchez comme des enfants de lumière. C'est un Père de miséricorde, alors vivez de sa miséricorde. Et c'est le Dieu de toute grâce, le Père de grâce, le Père d'amour. Il n'y a pas de changement en lui. Alors, maintenant, que savons-nous au sujet de Jésus-Christ dans ces quelques versets que nous avons considérés? Bien, on a appris quand même bien des choses au sujet de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils bien-aimé. Il est son Fils bien-aimé. Il est aussi, Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible. Personne ne vit jamais Dieu, dit l'évangile de Jean. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. C'est Jésus qui est l'image du vrai Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'existe pas de connaissance réelle et profonde de Dieu. C'est seulement en Jésus-Christ que vous pouvez apprendre à connaître Dieu. Évidemment, quand vous voyez les œuvres de la création, vous voyez quelque chose de la puissance éternelle de Dieu et de sa divinité, mais vous ne connaissez pas son cœur. Et si vous voulez connaître le cœur de Dieu, il vous faut connaître Jésus-Christ. C'est lui qui vous révèle ce cœur de Dieu, de ce Père au cœur de mère. Donc, on a appris qu'il est le Fils bien-aimé, qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'il est le premier-né de toute la création. Il a donc la primauté sur tout. Rien dans la création ne peut dépasser Jésus-Christ. Alors ne cherchez pas dans les choses créées quelque chose à ajouter au Christ. Il est au-dessus de toute la création parce qu'il est lui-même le Créateur. Il est le Créateur. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et vous avez accès directement au Créateur. Alors pourquoi vous chercheriez des médiateurs ou des médiatrices? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alors allez à lui, il est le Créateur. C'est lui qui a tout fait, comme il était déjà annoncé dans Proverbes chapitre 8. Vous avez découvert aussi qu'il est éternel. Il est le commencement, il est la tête de l'Église, puis il est le premier-né d'entre les morts. D'entre les morts. Une nouvelle création est manifestée. Et c'est lui qui en est le premier-né. Et puis il y aura ensuite tous les autres qui sont en lui. Lui est le premier-né, il est le prémisse de la résurrection. Et puis vient la moisson. Et nous faisons partie de cette moisson. Maintenant, on a vu quelque chose, ce que nous apprenons de Jésus-Christ dans ces versets. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu au sujet de sa volonté? Qu'est-ce que vous savez maintenant que Dieu a voulu? Il est dit plusieurs fois, Dieu a voulu. Alors vous devez la connaître, cette volonté. Qu'est-ce qu'il a voulu pour vous? Et qu'est-ce qu'il a voulu dans sa sagesse infinie? Il a voulu, avons-nous lu, que toute plénitude habite en qui? En Christ. Alors, où la cherchez-vous, la plénitude? Elle est en lui, n'est-ce pas? Le Père habitait pleinement dans son Fils. Il était pleinement dans son Fils, à un tel point que Jésus pouvait dire à la fin de son ministère à Philippe, qui lui demandait, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, mais je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est magnifique. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, que nos yeux puissent vraiment être loin d'un collyre et que nous puissions voir en Jésus-Christ le Père. Le Père qui nous a tant aimés. Toute la plénitude de la divinité habitait en Christ. Il avait l'Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit habitait dans le Christ sans mesure. Alors, toute plénitude étant en lui, si vous avez reçu le Christ, la plénitude est aussi en vous. Alors, commencez à louer le Seigneur. Puisque c'est vrai que vous l'avez, cette plénitude. Et alors, vous en ressentirez les bienfaits. Vous ne serez plus toujours à vous lamenter. Jouissez de ce que vous avez. Découvrez le trésor qui est en vous. N'allez pas le chercher à droite ou à gauche dans tel ou tel autre groupe qui vous promettent je ne sais trop quoi. Alors que sur place, vous avez en Jésus tout ce qui vous est nécessaire. Et ce que Dieu a encore voulu, il a voulu par Jésus réconcilier, il a voulu que par Jésus nous ayons la plénitude, puis il a voulu que par Jésus, eh bien, tout soit réconcilié avec lui-même. C'est donc uniquement par le Christ que vous êtes réconcilié avec Dieu. Et puis, ce qu'il a voulu aussi, c'est qu'un jour, nous puissions paraître devant lui, comment ? Des ratés ? Non, pas de ratés. Hein. Sans tâche, sans reproche. Et vous croyez qu'il n'est pas capable de faire ça ? Voilà ce qui doit vous empoigner. C'est de savoir que Dieu a voulu cela, que un jour vous puissiez être présenté devant lui sans reproche et sans tâche. Et qui est-ce qui aura la joie de vous présenter ainsi? C'est le Christ. Me voici, qu'il dira à son Père, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et c'est lui qui en aura fait ces monuments de la grâce de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Voilà votre ami. Voilà les choses qui sont à vous, les choses qui vous appartiennent. C'est quelque chose de tonique, c'est pas déprimant. Voilà ce que vous savez. Il l'a voulu et il le fera. Ce que Dieu veut, il l'accomplit. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Ben alors laissez-vous faire. Mais laissez-vous faire. N'essayez pas de faire vous-même. Laissez Dieu faire son œuvre en vous. C'est lui qui réconciliera toutes vos pensées avec les siennes. L'œuvre de la réconciliation a été faite par le Christ à la croix, où Jésus a payé le prix en versant son sang. Alors ça, l'œuvre est faite, mais maintenant, par son esprit, Dieu fait cette œuvre de réconciliation dans chacune de nous. La base, c'est la croix de Christ, mais maintenant, laissez l'Esprit Saint faire son œuvre en chacune de vos vies. Voilà, qu'est-ce que Dieu a voulu, qu'est-ce que Dieu veut. Vous êtes sûr de la volonté de Dieu, ce qu'il veut, il l'accomplit. Alors, qu'avons-nous appris au sujet de nous-mêmes? Parce que je repasse simplement cela dans nos cœurs. Bien, ce que j'ai appris, ce qui m'a redit ce matin, c'est qu'en Dieu, j'ai un Père. Je ne suis plus un orphelin, j'ai un Père. Et quel Père? En lui, nous apprenons que nous sommes des saints et des fidèles. C'est lui qui peut nous garder fidèles. C'est lui qui nous gardera dans sa sainteté. Puis, ce qui doit nous caractériser, ce sont ces trois vertus théologales, ces trois vertus qui se nomment la foi, l'espérance et la charité. Voilà ce qui doit caractériser essentiellement un chrétien. Les marques de la vraie vie chrétienne, c'est une foi qui n'est pas défaillante, un amour qui est à la base de tout travail que l'on peut faire pour le Seigneur, et puis une espérance qui nous soutient au travers de toutes nos épreuves. Nous savons que notre espérance ne va pas nous confondre. Nous sommes sûrs de notre espérance. C'est même une assurance. C'est une assurance. L'espérance que nous avons dans le Seigneur. Et nous avons un héritage dans les cieux. Nous en parlions tout à l'heure avec une de nos des sœurs grises. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Nous savons si peu de choses sur les lieux célestes. Et pourtant, c'est là que nous allons. Parce qu'il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas, pour aucun d'entre nous. Je ne vous souhaite pas de mourir. Mais tôt ou tard, hein, il faut passer par la mort, à moins que le Seigneur ne revienne. Mais il nous faut envisager cela. Donc, il y a une patrie. On ne va pas finir dans la tombe. Il y a une patrie céleste. Alors, il faudrait quand même un peu se renseigner au sujet de cette patrie. Il faudrait déjà un peu se promener dans ces aimables demeures, comme le psalmiste dit, combien sont aimables tes demeures, ô éternel des armées. Entrer dans les parvis du Seigneur. Nous avons un héritage qui est réservé dans les cieux. Puis, le Seigneur désire encore ce que nous avons appris sur nous-mêmes, que nous soyons remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté. Vous voyez, c'est des choses qui doivent vous marquer. Dieu veut que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alors ne dites plus, oh c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Dites au Seigneur, puisque tu veux que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, révèle-moi cette volonté. Mais évidemment, il faut rechercher le Seigneur pour cela. Si vous tournez le dos au Seigneur, eh bien, vous ne trouverez pas la volonté de Dieu. C'est dans cette relation avec le Seigneur que vous connaîtrez sa volonté. Le Seigneur nous révèle sa volonté quand on est proche de lui. Mais si vous écoutez toutes les voix du monde, comment voulez-vous qu'il vous parle? Lui, il dit, mais moi je suis venu vers vous, je vous ai parlé, vous n'étiez pas là. Oh mais Seigneur, on était en train de se débrouiller. Parce que nous avions lu dans notre Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous l'avez trouvé, ce verset? Je l'ai dit un jour dans un institut, à l'Institut Paul VI à Grimby. Et puis, je leur ai dit de trouver ce verset, puis plusieurs étudiants sont venus après me demander si je ne pourrais pas les aider. J'ai dit non, moi je ne vous aide pas. Alors là, non, moi je ne vous aide pas, trouvez-vous-même. Vous savez bien que ça n'existe pas. Mais tout le temps vous entendez ça. Oh, comme il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Même des gens très religieux vous disent ça. On ne connaît pas cet abandon total à la volonté du Seigneur. Alors, si je vis dans la présence du Seigneur, il me montrera sa volonté. Et avant d'avoir cette assurance intérieure que c'est sa volonté, je ne marche pas. Hein. Si vous avez un doute, n'agissez pas. Attendez. On va vous dire, mais c'est pressé. Mais le Seigneur le sait. Lui, il est toujours à l'heure. Alors, sachez attendre le dernier quart d'heure, si j'ose dire ainsi. Hein. C'est peut-être le dernier quart d'heure qui est le plus difficile à attendre. Hein. Mais il ne sera pas en retard. Il ne sera pas en retard. Donc, il veut que nous connaissions sa volonté. Puis, il veut que nous soyons entièrement agréables. Soulignez ce mot entièrement. Il veut que vous soyez entièrement agréables. Jésus disait, vous savez, vous me laisserez seul, mais toutefois, je ne suis pas seul parce que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Il faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Alors, il n'était pas seul. Nous avons vu que nous devions marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous devons connaître cette volonté pour pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est marcher d'une manière digne du Seigneur? C'est marcher comme lui a marché. C'est marcher vraiment en lui. Et nous avons vu que lui nous avait rendus capables, il nous donne les capacités dont nous avons besoin, il nous a délivrés de ce pouvoir des ténèbres. Nous sommes maintenant dans son royaume, et dans ce royaume, nous avons en lui la rédemption, le rachat, le salut, la rémission de nos péchés, nous avons vu tout cela, et puis, nous avons la plénitude, nous sommes réconciliés, et il veut nous faire paraître saints et sans reproche devant lui, mais il y a aussi. Alors, ceci, ce n'est pas la perte du salut, mais c'est simplement pour que nous puissions marcher vraiment selon les connaissances que nous avons. Il est dit, verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et non inébranlables dans la foi. » La vraie foi, c'est une foi qui n'est pas statique, mais qui est dynamique. C'est une foi qui produit des œuvres. C'est une foi agissante par la charité. C'est une foi qui n'est pas morte. C'est pas une théorie, notre foi. C'est une vraie vie. Alors, nous restons inébranlables dans la foi. Si on a eu la vraie foi, on reste dans cette foi. Et on ne se laisse pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Et vous avez vu que cet évangile que nous avons entendu, nous avons lu que c'est l'évangile qui est la parole de Dieu. Cet évangile, c'est la parole de Dieu. Donc, nous pouvons être sûrs de ce que nous avons entendu. Alors, ne nous laissons pas détourner de ce que nous avons entendu. Ne remettez pas en question l'évangile. Or, aujourd'hui, on remet tout en question. Est-ce que ça vous arrive? Remettez-vous en question vous-même, mais ne remettez pas la révélation en question. C'est à cela que vous devez absolument revenir. Et si vous revenez à cela, vous serez heureux. Moi, le premier aussi. Je sais que j'ai sans cesse à revenir à cet évangile. Car il est dit que la parole de la vérité, c'est la parole de l'évangile que nous avons précédemment entendu. Nous devons donc revenir à ce que nous avons entendu. Comme l'apôtre Jean dit, ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Eh bien, revenons à ce que nous avons entendu parce que c'est cela, la vérité. Et nous avons vu aussi que ce que nous avons entendu et qui a été prêché à toute créature, bien, nous l'avons entendu, nous avons entendu, et il est dit, nous avons connu la grâce de Dieu. Nous avons entendu et connu. Quoi? La grâce de Dieu conformément à la vérité. Parce, attention, hein, la grâce de Dieu, il faut l'avoir entendue et il faut l'avoir connue, il faut la connaître conformément à la vérité. Il ne faut pas dire, eh bien voilà, la grâce de Dieu, tout est grâce, le Seigneur a tout expié, il n'est plus question de nos péchés, bien péchons afin que la grâce abonde. Péchons afin que la grâce abonde. Alors ça, ce n'est pas l'évangile conforme à la vérité. La vérité, c'est que si vous avez vraiment reçu l'évangile, vous marcherez dans la sainteté. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous avez des formes religieuses, vous avez des pratiques religieuses, mais ni ces formes, ni ces pratiques ne vous sauveront et ne vous garantissent le salut. Ce qui vous garantit le salut, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, passons maintenant au verset que vous venez d'étudier. On a essayé de repasser dans nos cœurs, comme Marie, quelques-unes de ces vérités des 23 premiers versets. Verset 24. Je me réjouis maintenant. À quel moment est-ce qu'il se réjouissait, l'apôtre Paul? Il était où? Il était en prison. Il avait une source de joie. Je me réjouis maintenant. Il ne s'est pas lamenté. Je me réjouis maintenant. Dans mes souffrances pour vous. Même en prison, l'apôtre était conscient que, en leur écrivant et en priant pour eux, eh bien, il souffrait pour eux. Vous savez, il écrivait pas simplement une lettre comme ça pour les encourager, mais il y était dans cette lettre. Il y était corps et âme, entièrement. Et il quittait en quelque sorte sa prison. Il le dit un peu plus loin, je suis absent du corps, je ne suis pas au milieu de vous dans mon corps, mais je suis présent en esprit. Il n'était plus dans sa prison, quand il était réellement au milieu d'eux. Et ça, c'est possible. Quand on aime les âmes, on peut se trouver proche de celles dont on est séparé. Et on peut souffrir avec elles de leurs souffrances. Et Paul dit bien maintenant, donc dans sa prison, il se réjouit des souffrances qu'il a pour eux. Et il ajoute que ce qui manque aux souffrances du Christ, il l'achève en sa chair pour son corps et qui est l'Église. Est-ce qu'il manquait quelque chose aux souffrances du Christ quant à notre rachat? Est-ce que Paul peut ajouter quelque chose aux souffrances du Christ parce qu'il manquerait quelque chose aux souffrances du Christ? Non. Quant à l'expiation, le Seigneur a tout souffert. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas des souffrances expiatoires. Jésus a tout souffert. Mais, maintenant, l'apôtre Paul, qui s'est donné entièrement à Dieu, bien, ses propres souffrances, c'est les souffrances de quoi? C'est les souffrances du Christ. Il ne souffre pas comme un malfaiteur. Il n'est pas en prison parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a commis adultère ou que sais-je encore, parce qu'il a été un malfaiteur. Mais il est en prison pour quelle raison? Pour le Christ. Ce que Dieu lui avait dit par la bouche d'Ananias, je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom. Ce sont les souffrances du chrétien dont Pierre parle dans le chapitre 4 de sa première épître au verset 16, que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas de honte. Les souffrances que nous devrions connaître, nous devrions pouvoir dire, ce sont les souffrances du Christ. Mais la plupart du temps, les souffrances que nous connaissons, ce sont les souffrances de nos inconséquences. Nous subissons, au fond, les conséquences de nos inconséquences. Nous n'avons pas été conséquents avec la parole de Dieu, et alors nous avons des souffrances. Mais bien sûr, nous pouvons aussi remettre ces souffrances-là. Le Seigneur est capable de nous en délivrer. Mais maintenant que nous sommes avertis, les souffrances que je veux connaître, ce sont les souffrances du Christ. Si je dois souffrir, je voudrais souffrir pour le Christ. C'est cela qui est devant mes yeux et qui doit être devant nos yeux de chrétiens. Parce que quand il est parlé qu'il manque quelque chose aux souffrances, c'est pas pour notre rachat qu'il manque quelque chose, mais c'est pour que dans chaque membre du corps devienne semblable à quoi ? À la tête. Comprenez-vous? Alors, c'est là que nos souffrances deviennent les souffrances du Christ. Je souffre pour les membres du corps de Christ. J'accepte de souffrir pour mes frères, pour que mes frères grandissent. Je travaille, dit l'apôtre. Et il est prêt à tout souffrir pour que les élus qui sont dans ce monde et que Dieu connaît viennent à la connaissance du salut. C'est ce qu'il dit à son enfant dans la foi, Timothée. Il lui dit, souffre tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi viennent à la connaissance du salut. C'est pas nous qui sauvons les âmes. C'est Dieu qui les sauve. Mais Dieu connaît ses élus. Mais il y a des élus qui n'ont pas encore la jouissance du salut, qui ne connaissent pas encore le salut. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui ne jouissent pas encore de leur salut? Bien, nous demandons que, ici, dans la prière, d'une manière ou d'une autre, nous puissions tout souffrir pour que Dieu vous amène à cette connaissance du salut. Pour que vous jouissiez de votre salut. Pour que vous ne soyez plus dans la crainte au sujet du lendemain. Ou dans la crainte au sujet de la mort ou de l'issue d'une maladie qui vous aurait atteint. On s'en remet entre les mains du Seigneur. Nous voulons tout souffrir pour que vous ayez cette jouissance du Seigneur. J'achève en ma chair pour son corps, qui est, qu'est-ce que c'est son corps? C'est l'Église. Alors, vous voyez que ça change toutes nos dimensions. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. L'Église est le corps de Christ. L'Église n'est pas une organisation, même séculaire. L'Église est un organisme vivant, dont chaque croyant est membre, comme dans un corps humain. Et alors, verset 25, il dit, c'est d'elle, donc c'est de l'Église, que j'ai été fait ministre ou messager selon la charge que je me suis donnée ou selon la charge que les évêques m'ont donnée. Selon la charge que... C'est dans toutes les Bibles, ça. Selon la charge que Dieu m'a donnée. Alors, puissiez-vous aussi prendre conscience que Dieu vous a donné peut-être une charge. Ne prenez pas la charge d'un autre, mais demandez-lui, Seigneur, montre-moi la charge que toi tu m'as donnée. Il vous a donné une charge peut-être auprès d'autres âmes. Et pour Paul, la charge que Dieu lui avait donnée, c'était qu'il annonçasse médiocrement la parole de Dieu. Le petit salut, pour qu'il soit juste sauvé, qu'il n'aille pas en enfer. Je suis sauvé, je n'irai pas en enfer. Ça ne m'intéresse pas. Annoncer pleinement, hein. Vous avez vu, lui plaire entièrement, lui être entièrement agréable. Puis ici, il nous faut annoncer pleinement. L'épître aux Colossiens, c'est vraiment une épître de plénitude. C'est annoncer tout le conseil de Dieu. Pas seulement la repentance et la foi, mais tout ce qui peut être utile à une âme pour que sa vie soit réussie. Vous voulez réussir votre vie? Laissez-vous faire par le Seigneur. Lui réussira votre vie. Il veut que votre vie soit une réussite et non pas un échec. Il veut que vous puissiez finir votre existence comme l'apôtre Paul qui peut dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Non pas « J'ai perdu la foi. Hein, » comme il y en a plusieurs qui disent « J'ai perdu la foi. » Ils ne l'avaient jamais vraiment eue. Ils avaient l'illusion d'avoir la foi, mais ils n'avaient pas la foi véritable. Parce que la foi véritable, on ne la perd pas. On ne la perd pas. J'ai gardé la foi. Eh bien, le Seigneur veut que notre évangile soit le plein évangile de Dieu. Il faut que nous annoncions pleinement la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est, cette parole de Dieu que nous devons annoncer pleinement? Il est dit, verset 26, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. » Quel est ce mystère? Quel est ce secret de Dieu? C'est Christ. Vous voyez? Ce secret de Dieu, ce mystère que l'on n'avait pas connu, qui n'était pas encore révélé dans l'Ancien Testament, seulement par des images, ce mystère, c'était le Christ qui allait habiter dans le croyant. Non plus le péché qui habiterait en nous, mais le Christ. Le Saint de Dieu, Dieu lui-même en vous. Quelle chose merveilleuse. Et puis, ce n'était pas seulement que les Juifs qui bénéficieraient de la présence du Messie, mais c'était tous les peuples. C'était déjà annoncé, au fond, à Abraham que en sa postérité seraient bénies toutes les nations de la terre. Donc, le salut de Dieu n'était pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples. Et Israël avait comme mission d'apporter la lumière à toutes les nations. Et évidemment, quand un peuple qui a reçu une telle mission n'accomplit pas sa mission, alors il y a le jugement. Ah, parlez-moi de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est manifeste dans l'histoire d'Israël. Mais parlez-moi aussi de la sévérité de Dieu. Parce que plus il nous confie de responsabilités, plus aussi il va nous redemander des comptes. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. On ne se moque pas de Dieu, ne vous y trompez pas, donc on pourrait s'y tromper. On pourrait dire, ah ben oui, moi j'ai reçu la bonté de Dieu. Oui, mais cette bonté, elle doit te donner vraiment le sens de tes responsabilités. Tu es l'enfant d'un Dieu qui est bon. Alors, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, parce que le monde vous regarde. Et si vous voulez avoir une autorité sur les âmes auxquelles vous parlez, il vous faut être conséquent. Jésus, voyez-vous, sa doctrine, c'était quoi? C'était sa vie. Sa vie était sa doctrine, et sa doctrine était sa vie. Et il disait, mais ma doctrine, elle n'est pas de moi, elle est du Père. Ce que je vous dis, ça ne sort pas de moi, ça vient de mon Père. Il donnait toute gloire à Dieu. Il disait même que toutes les personnes qui étaient sauvées, c'était le Père qui les avait attirées à lui. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et puis une fois qu'elles étaient à lui, il les redonnait au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a les deux choses. Hein. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et puis, nul ne vient au Père que par moi. Le Père attire les âmes. Ah, mes amis, c'est cela que nous devons désirer, que les âmes se sentent attirées par le Père Céleste. Elles viendront à Jésus. Jésus les sauve, puis les redonne à qui? À son Père. Mais il les redonne sauvées par grâce, couvertes par son sang purificateur. Alors, méditez sur ce mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais qui a été révélé maintenant. Et ce mystère, c'est quelqu'un, c'est le Christ. Ce secret de Dieu, c'est le Christ. Oh, puissiez-vous faire du Christ l'objet de votre contemplation, de votre recherche. Vous voyez, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a une autre version. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le petit livre là que vous avez eu? Ainsi, et voici le secret, le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire, c'est l'assurance que vous aurez part à sa gloire. C'est pas une vague espérance. Christ en vous, c'est l'assurance. Est-ce que vous avez cette assurance? Je n'ai pas d'assurance en dehors de Jésus-Christ. Mon assurance, c'est le Christ. Mon assurance, c'est quelqu'un. Et quelqu'un que je connais. Quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui ne demande qu'une chose, c'est se révéler de jour en jour, davantage à vous. Alors, pour Paul, quel est son message? C'est une doctrine qu'il annonce? C'est écrit, c'est une personne. Il met devant les âmes une personne. C'est lui que nous annonçons. Il n'apporte pas une doctrine, Paul. Il apporte une personne, exhortant tout homme. Seulement, une élite d'hommes? Non. Tout homme. Vous pouvez croire que tout homme peut être amené à cette perfection. Exhortant tout homme et instruisant tout homme. Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Alors quiconque c'est tout homme, mais aussi toute femme bien sûr. Parce que c'est l'humanité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et instruisant. Donc il faut annoncer. Il faut exhorter, il faut instruire tout homme, un petit peu, non. En toute sagesse. Vous vous rendez compte de la responsabilité des conducteurs spirituels? Est-ce qu'on va se dire, qu'est-ce que je peux bien leur dire? Qu'est-ce que je peux bien raconter à mon église? Qu'est-ce que je peux bien raconter à mes paroissiens? Qu'est-ce que je peux bien dire à mes fidèles? Ou bien, comme disait un serviteur, Dieu va bien me donner quelque chose à leur dire. C'est pas ça. C'est pas qu'est-ce que je peux leur dire. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu as à dire à ces âmes? Oui, mais si je leur dis cela, il y en a qui vont plus m'aimer. Il y en a qui aiment tellement ces discours pommades, n'est-ce pas? On met de la pommade sur toutes vos blessures, simplement. Alors que peut-être il faut le coup d'épée qui perce la paix qui vous empoisonne, qui vous débloque. Eh bien, il faut exhorter tout homme, instruire tout homme en toute sagesse. En vue de quoi? En vue de présenter à Dieu tout homme. Rendez-vous compte de cette mission que vous avez. En vue de présenter à Dieu tout homme. C'est comme un ouvrier, n'est-ce pas, qui a une tâche. Ben, disons, je suis ébéniste et j'ai un meuble à faire, je voudrais le faire d'une façon la plus parfaite possible pour que je puisse présenter ce meuble terminé, fini. Il n'y a plus rien à faire. Il est rendu net pour la vente ou pour la livraison. Eh bien, nous voulons aussi que dans notre ministère, nous puissions travailler avec force à ce que tout homme devienne parfait en Christ. Ben, ça va peut-être nous donner du travail. Ça va nous faire pleurer. Ça va nous obliger de dire peut-être certaines vérités à des âmes, parce qu'on les aime. Mais on leur dira ces vérités dans la charité. Non pas en nous mettant au-dessus d'eux, mais en leur disant, mais est-ce que tu as bien réfléchi à cela? Je vois que tu fais ceci, que tu fais cela. Est-ce que tu fais cela vraiment dans le Seigneur? Est-ce que tu marches dans le Seigneur? C'est à quoi je travaille. Et voyez-vous, le travail spirituel, c'est pour cela que si on n'est pas appelé à faire cela, eh bien, on ne peut pas tenir le coup. Parce que j'ai parlé d'un ébéniste. À un moment donné, mon meuble, il est terminé. Je ne peux plus rien faire. Hein. Mais avec une âme, c'est jamais terminé. N'est-ce pas? Vous croyez qu'elle est hors de toute peine, et puis tout à coup, vous apprenez qu'elle est de nouveau en danger. Alors, Paul dit aux Galates, je suis de nouveau dans les douleurs de l'enfantement. Une fois qu'une femme a eu son enfant, ben, c'est fini les douleurs, semble-t-il. Eh bien, là, dans le travail spirituel, il semble qu'il faut de nouveau passer par les douleurs de l'enfantement. Pour que le Christ soit formé en vous. C'est un travail. Travail. En combattant avec sa force. Avec quoi combattez-vous dans l'œuvre du Seigneur? Avec vos forces? Alors c'est pour ça qu'on dit, oh, je suis crevé. Vous êtes crevé après avoir travaillé pour le Seigneur? Nous devons être renouvelés. Un renouvellement constant. Ça ne veut pas dire qu'on va exagérer aussi. Il faut savoir aussi prendre du repos. Mais l'apôtre Paul, il combattait avec et qu'est-ce qui agissait puissamment en lui? C'était la force de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Et ce n'est pas seulement pour Paul, ça. C'est aussi pour vous. Est-ce que vous apprenez à travailler avec sa force? Seigneur, donne-moi ta force. Mais alors, on ne peut plus se glorifier. On ne peut plus dire, vous savez, voilà, j'ai fait cela. Non, il a fait cela. Peut-être qu'il m'a employé. Et c'est une grâce. Que Dieu veuille bien m'utiliser, c'est une grâce qu'il me fait. Parce que je suis indigne de cela. Que Dieu veuille bien nous choisir pour faire son travail, pour faire son œuvre, c'est une grâce. Ne pensez pas qu'il vous doive quelque chose. C'est là que vous pouvez méditer et mieux comprendre ce texte qui dit, après que vous aurez fait tout ce que je vous ai dit de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous avions à faire. Il est Dieu. Et il ne nous doit rien. S'il veut encore nous employer, mais c'est une grâce d'être dans la main de Dieu. Vous ne trouvez pas? C'est une grâce. Et quand vous êtes dans la main de Dieu, eh bien, vous êtes préservé de bien des choses. Alors restons dans la main de Dieu. Laissons sa force nous envahir. Vers chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Laodicée était une ville proche de Colosse. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Vous rendez-vous compte que l'apôtre pense et a à cœur des gens qui ne le connaissent Il les aime. Est-ce que vous aimez les gens que vous ne connaissez pas? Vous devez vous ouvrir à tout ce monde. Dieu a tant aimé le monde. Vous devez avoir un cœur, et je dois avoir un cœur, aux dimensions de quel cœur? Du cœur de Dieu, c'est mon Père. Ayez un cœur aux dimensions de son cœur. Alors vous aimerez tous les hommes, vous n'aimerez pas seulement les gens de votre communauté, de votre groupe particulier. Et je trouve tellement triste. Oui, on doit d'abord aimer les siens, on doit d'abord aimer sa famille, les gens qui nous sont le plus proches. Mais nous devons nous ouvrir à toutes les âmes. Nous devons englober dans notre affection toutes les âmes, tous ceux pour lesquels le Christ est mort. Et voyez-vous, quand notre cœur est rempli de cet amour, quand on rencontre un chrétien, on ne lui demande pas d'abord de quel groupe il fait partie. Parce qu'automatiquement, il y a une séparation. Quand Marie rencontrait sa cousine Élisabeth, qu'est-ce qui se passait dans leur salutation? Il y avait un tressaillement de joie. Eh bien, si vous êtes habité par le Christ, quand vous saluerez une âme vraiment dans le Seigneur, vous la ferez tressaillir de joie. Mais quelquefois, hélas, quand les chrétiens se rencontrent, parce qu'ils ne sont pas du même milieu, ils tournent la tête, ou ils s'évitent, ils changent de trottoir. C'est pas cela. Moi, j'aime la salutation des entrailles, la salutation d'Élisabeth, qui répond à Marie. Elle lui dit, quand tu m'as salué, l'enfant qui est en moi a tressailli dans mon sein. Apporter de la joie. Pouvoir parler du Seigneur. Non pas tout de suite, vous êtes de quel groupe? Vous êtes de ceci, vous êtes de ça. D'ailleurs, vous commencez à parler d'une doctrine particulière. Et automatiquement, ça vous éloigne. Mais quand vous êtes centré sur le Christ, vous pouvez parler du Christ aux âmes. Même si cette âme n'est pas de votre groupe. Parce que ce qui compte, c'est pas qu'elle soit des vôtres, mais qu'elle soit des siens. Hein? C'est ça. C'est ça la vraie unité. Et voyez-vous, j'ai donné souvent cet exemple du triangle. La fausse unité, le faux œcuménisme, c'est, vous voyez le triangle, comme cela. Hein? Les uns sont ici, c'est une confession, l'autre confession serait là. Alors on nous dit, ces divisions ont assez duré, maintenant il faut nous rapprocher, il faut que nous manifestions notre unité dans la foi chrétienne. Alors vous, de cette confession, vous faites quelques concessions, puis nous on en fera aussi, puis on se rapproche l'un de l'autre, devant le monde. Hein? Mais on est toujours aussi loin du sommet, hein, du triangle. Alors ça, l'unité à la base, c'est la fausse unité, quand on marche simplement l'un vers l'autre, c'est pas ça. Mais si de ce point-là, à droite, et moi de ce point à gauche, je monte vers le sommet, plus j'approche du sommet, disons que le Christ est au sommet, plus nous nous rapprochons l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas être proche du Christ et éloigné de ceux qui sont proches du Christ. Plus vous vivrez dans la communion du Seigneur, plus vous serez en communion avec ceux avec lesquels le Christ est en communion. Et ne croyez pas que le Christ n'est qu'en communion qu'avec vous ou qu'avec votre groupe. Parce que là, alors, vous feriez une grave erreur. Et vous deviendrez des sectaires. Alors que Dieu nous garde de tout esprit sectaire. Soyons fermes dans les vérités que nous professons, mais ayons un cœur largement ouvert pour toutes les âmes qui recherchent le Seigneur. Alors nous revenons à notre verset 2, où on voit que l'apôtre se préoccupe de gens qui ne le connaissent pas selon la chair. Mais ce qu'il veut pour eux, ce qu'il a comme désir dans son cœur, c'est qu'ils aient le cœur rempli de quoi? De toute consolation. Mais qui est-ce qui peut donner la consolation? Jésus, mais qui nous révèle le Dieu de toute consolation. Alors, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a besoin de consolation? Vous pouvez avoir le cœur rempli. Ce que le Seigneur voudrait vous remplir, il voudrait vous remplir de la connaissance de sa volonté, c'est une des choses que vous pouvez méditer. De quoi devez-vous être rempli? De la connaissance de sa volonté, chapitre 1er. Chapitre 2, rempli de toute consolation. Le Seigneur voudrait que sur un point très précis, vous receviez sa consolation ce soir. Que votre cœur soit rempli de toute consolation. Et qu'il soit uni dans la charité. Vous voyez, des chrétiens qui ne désirent pas l'unité de l'Église, je ne vois pas bien ce qu'ils font dans le christianisme. Le Seigneur a dit qu'il soit un. Qu'il soit un. Alors, nous devons désirer cette unité des enfants de Dieu. Et nous devons nous réjouir quand nous pouvons parler ensemble du Seigneur. Et puis, dans ces contacts, dans ces entretiens, nous nous découvrons les uns les autres. Puis, nous faisons cette découverte. Mais cette personne, elle aime le Seigneur. Je ne le savais pas. On me l'était dans cette église. Je ne pensais pas qu'elle aimait le Seigneur. Puis, on découvre qu'elle aime le Seigneur. Peut-être que, sur des points, elle ne fait pas la même chose que nous. Mais elle aime le Seigneur. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors, ne nous jugeons pas. Elle n'a peut-être pas le même accent quand elle dit une chose. Elle n'emploie peut-être pas les mêmes mots. Mais la question, ce n'est pas d'employer les mêmes mots, c'est d'avoir la personne en nous. Christ en nous, l'espérance et la gloire. C'est être habité par quelqu'un. Être chrétien, ce n'est pas avoir des idées sur le christianisme. Ce n'est pas avoir une doctrine, ce n'est pas avoir une théorie, même juste. Être chrétien, c'est être habité par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes habité par Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes habités par une personne? Comme Marie, elle était déjà habitée par Jésus. On ne voyait rien encore. Hein? Elle venait de passer par cette action extraordinaire du Saint-Esprit en elle. Mais Élisabeth ressent qu'elle est habitée. Comment la mère de mon Seigneur. C'est beau ça. Il y a un discernement. On se reconnaît. On est de la parenté du Seigneur. Est-ce que Jésus nous reconnaît comme étant de sa parenté? Est-ce que vous êtes parents du Seigneur? Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Quand on lui dit, ta mère et tes frères te cherchent, il regarde ses disciples et il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté du Seigneur, c'est lui qui est mon père, ma mère. N'est-ce pas merveilleux, ça? Il nous reconnaît comme étant de sa parenté. Il est de la parenté du Seigneur. Alors, souvenez-vous de cela. On ne se conduit pas n'importe comment quand on est d'une telle famille. La famille de Dieu. La famille de Dieu. La famille du Père Céleste. Vous êtes ma famille. Je vous reconnais comme mes frères et comme mes sœurs, comme c'est tonique. Alors nous ne sommes plus seuls. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Psaume 68. Il fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. C'est ça la communion des saints. Nous sommes en communion avec tous ceux avec lesquels le Christ est en communion. Alors il voudrait que nous soyons unis dans la charité, dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Et c'est quoi le mystère de Dieu? C'est Christ. C'est cela qui doit compter pour nous, connaître Christ. L'apôtre Paul, justement, dans la dernière épître qu'il semble avoir écrite de prison et qu'on croit être celle aux Philippiens, il dit, bien, moi maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte. Pourtant, il y a longtemps qu'il connaît le Seigneur. Il dit, je voudrais connaître Christ. On dit, mais Paul, il y a si longtemps que tu es converti, tu ne le connais pas encore. Je le connais davantage. Je fais la perte de toutes choses, j'estime toutes ces choses comme de la boue, comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, parce qu'il faut connaître cette puissance, en vue de quoi? Pour entrer dans la communion de ses souffrances. Parce que, mes amis, plus vous avancerez dans ce monde, aujourd'hui, plus vous aurez besoin de la puissance de sa résurrection pour témoigner. Et quand je dis témoigner, c'est pas seulement parler. Mais c'est justement vivre autrement que tout le monde. Parce que si vous ne vivez pas comme tout le monde aujourd'hui, vous deviendrez des gêneurs. Et on fera tout au monde pour vous dire que, enfin, vous êtes capotés, que sais-je encore, au point de vue spirituel. C'est pas. On essayera de vous détruire. Alors, pour ne pas vous laisser détruire. Et je dirais même des chrétiens essayeront de vous détruire. Parce qu'il y a tellement peu de chrétiens qui marchent vraiment selon la parole qu'on essayera de vous faire vous relâcher pour que ça les justifie. C'est ça qui est tragique. On ne va pas vous encourager à marcher plus loin. Alors que le Seigneur vous dit, nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière est propre pour le royaume de Dieu. Vous avez mis la main à la charrue, eh bien, avancez. La délivrance, elle est devant vous. Pour que le sillon soit droit, ne regardez ni à gauche, ni à droite. Ni ce qui se fait à gauche, ni ce qui se fait à droite. Regardez le Seigneur. C'est lui, le Christ, qui est le secret de Dieu. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. La chasse aux trésors. Où allez-vous la poursuivre? Les trésors. Il y a des trésors dans la connaissance du Christ. Que voulez-vous? Est-ce que vous les voulez, ces trésors, qui sont plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, à la recherche des trésors, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous recherchez? Les trésors de la terre? Vous ne les prendrez pas avec vous? Vous les abandonnerez, ces trésors? Et vous les perdrez peut-être même avant de mourir, si les banques continuent à faire faillite. Alors, il vous faut autre chose. Recherchez les trésors impérissables, trésors incorruptibles, trésors qui ne se souillent pas et qui ne sont pas souillés. Tous les trésors, de quoi? De la vraie sagesse. La sagesse de Dieu. Dans sa crainte, vous trouvez tous les trésors. Et puis, aussi de la science. Vous voulez être un scientifique? Apprenez à connaître le Seigneur. L'amour du Christ, qu'est-ce qu'il est dit? Surpasse toute science, toute connaissance. C'est ça la vraie science, c'est aimer le Christ. C'est ça la vraie science. Parce qu'il y a une fausse science. Cette science, comme dit Paul, faussement ainsi nommée. Mais en Christ, vous avez tous les trésors de la sagesse et de la science. Verset 4. Je dis cela. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que je ne voudrais pas. Alors c'est là que vous voyez les dangers qu'avaient les Colossiens, que couraient les Colossiens. Je dis cela, n'est-ce pas? Je vous exhorte, je vous montre dans quelle ligne vous devez travailler, ce que vous devez chercher. Je vous dis cela. Afin que personne ne vous trompe, parce que il y a des faux discoureurs, il y a des faux docteurs qui menaçaient justement cette plénitude que les Colossiens pouvaient avoir en Christ. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et vous les connaissez, ces discours séduisants? Ah, il y a des prédicateurs qui peuvent être très séduisants dans leurs discours aussi. Mais ils ne sont pas vrais, car si je suis absent de corps, vous voyez ce qu'il était dit, hein, absent de corps parce qu'il est en prison, il est à Rome, mais en même temps il est à Colosse. Je suis avec vous en esprit. Et quand on est vraiment proche des âmes, dans la communion des saints, on voit quelque chose. Je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Donc, il souligne d'abord les points forts de cette Église. Il reconnaît d'abord le bien qu'il y a dans cette Église. Il y a de l'ordre, et pas du désordre. Une Église où il y a du désordre, c'est pas sain. Et il règne vraiment parmi vous. vraiment une fermeté, la fermeté de votre foi. Vous savez pourquoi vous croyez ce que vous croyez, vous savez en qui vous croyez, verset 6. Ainsi donc, après avoir souligné les points forts, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous l'avez reçu le Seigneur Jésus? Vous l'avez reçu? Ben alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Marchez dans lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Marchez dans lui. Vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Marchez dans lui. Mais qu'est-ce que c'est marcher en lui? C'est être caché en lui. Notre vie, elle est cachée, comme on le verra, dans le Christ. En Dieu. Alors, marchons en lui. Laissons le Seigneur marcher. Et nous sommes, nous, en lui. Nous sommes en lui. Alors le Christ marche et je suis en lui. C'est lui qui marche. C'est lui qui est ma marche. Puis alors, le chemin, quelle est la largeur du chemin pour un chrétien? C'est Jésus. Il n'y a pas un chemin pour les catholiques, un chemin pour les protestants, un chemin pour les évangéliques, etc. Avec différentes largeurs. Hein. Chemin accordéon. Hein? Alors, quel chemin voulez-vous? Marcher en lui. La largeur du chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Mais ce chemin, beaucoup de chrétiens ne veulent pas le suivre. Cette vérité, beaucoup de chrétiens ne veulent pas l'accepter. Parce que cette vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne, c'est lui-même. Et puis la vie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Le salut, ce n'est pas quelque chose, le salut, c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu ton salut, dit Siméon, en regardant l'enfant Jésus. Alors, marchez en lui. Mais, ce n'est pas seulement de marcher en lui. Qu'est-ce qu'il faut encore? Étant, verset 7, enraciné. Votre racine, elle est où? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Enraciné. Un arbre enraciné. Parce que vous devez être un arbre. Vous devez croître comme un arbre près des eaux. Alors, c'est quelque chose d'individuel. Vous êtes individuellement enraciné en qui? En Christ. Pas simplement dans votre groupe. N'est-ce pas? Parce que peut-être que vous allez être déraciné de votre groupe. Ça arrive, ça. Mais ce qui compte, c'est pas d'être déraciné de son groupe, c'est d'être enraciné en Christ. Alors, en lui, vous n'êtes pas déraciné. Vous êtes enraciné en lui. Alors, comme un arbre planté près des eaux, même dans l'année de la sécheresse, vous ne cesserez pas de produire du fruit. Votre feuillage sera toujours vert, hein? Étant enraciné en lui. Mais aussi fondé. Et c'est une expression qui revient souvent chez saint Paul. Hein. Enraciné individuellement et fondé. Comme église. La fondation de l'église, c'est qui? C'est le Christ. La pierre angulaire, c'est Jésus. Il est la pierre. Même Jean-Paul II l'a reconnu à Québec. Le Christ est la pierre. C'est sûr, non pas sur l'apôtre Pierre, mais c'est sur le Christ que l'église est bâti. Alors, soyez fondés en lui. Et puis, non seulement enracinés et fondés, mais affermis dans la foi. Il faut être de plus en plus ferme dans la foi. Et ça, c'est tout à fait un message pour le temps présent. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute espèce de vent qui voudrait vous emporter ça et là à toutes sortes de doctrines. Il faut rester ferme dans la foi. D'après quelles instructions? Les instructions d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle organisation? D'après les instructions qui vous ont été données? Par qui? Par Épaphras. Et ces instructions, c'était vraiment les instructions du Seigneur. Paul le reconnaît, l'argument. Et ensuite, abonder en action de grâce. Je voudrais vous le demander, mes amis, est-ce que vous savez ce que c'est que les actions de grâce? Est-ce que vous êtes conscient des grâces que vous avez? Est-ce qu'il vous arrive de remercier le Seigneur? De le bénir? Vous demandez peut-être ceci et cela. Mais est-ce que tout à coup, le Saint-Esprit ne va pas vous saisir et vous dire, mais ce que je demande là, c'est sans la volonté de Dieu. Eh bien, je m'en vais te louer, Seigneur, de ce que tu me l'as donné. Car quand nous avons demandé quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Il n'y a pas plus de 3 semaines, j'étais vraiment en prière pour quelque chose de très spécial. Il n'y avait, semble-t-il, aucune issue. Et puis, tout à coup, le Seigneur me dit, rends grâce. J'ai rendu grâce. Dans la journée même, il y avait la délivrance. Mais quand j'ai rendu grâce, elle n'était pas là, la délivrance. Mais la délivrance est venue de la journée. J'avais dit, merci Seigneur. Mais évidemment, il y a tous les doutes, tous les petits chiens qui vous courent après, qui aboient, qui disent, qu'est-ce que tu as dit? Et vous savez, quand vous l'avez dit encore à personne, ça va, parce qu'on se dit, hein, si ça n'arrive pas, personne ne le saura. Mais si vous avez dû communiquer, que vous avez déjà rendu grâce pour une chose, on va vous questionner alors, le soir. Est-ce qu'elle est arrivée? Hein? C'est là que la foi est mise à l'épreuve. C'est quand on peut dire, oui, ça est arrivé. C'est ça qui est merveilleux. Alors, voyez-vous, et il y a une puissance dans la louange. Il y a une délivrance dans la louange. Apprenez à louer le Seigneur. En lui rendant grâce. Abondez en action de grâce. Quand vous avez dit merci au Seigneur de ce qu'il a fait, et que c'est justement pas quelque chose pour vous, mais quelque chose pour quelqu'un d'autre, alors c'est merveilleux. Abondez en action de grâce. Pas seulement abonder en supplication, mais abonder aussi en action de grâce. Puis vous pouvez dire, le Seigneur a exaucé. Verset 8. Et on prend garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Rendez-vous compte, il y a des gens qui voudraient nous posséder. Parce que faire de quelqu'un sa proie, c'est le prendre à soi. Alors méfiez-vous, gardez-vous de ceux qui veulent vous attirer à eux. Et si moi je voulais le faire, hein, eh bien éloignez-vous de moi. Je vous en supplie. Puis ne parlez pas de moi. Parlez du Seigneur qui vous a été présenté. Mais ne parlez pas de l'homme. Parce que ça ne crée que des jalousies chez les autres serviteurs. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée. Que personne ne fasse de vous sa proie. Oh, mais je veux vous faire du bien à vous, chères âmes. Et vous avez besoin de mon enseignement, vous avez besoin de moi. Mais non, le Seigneur peut employer n'importe qui. Il n'a pas besoin de moi. Tout ce dont le Seigneur a eu besoin, c'est d'un petit âne. Un ânon, hein. Oui. Vous savez que pour entrer à Jérusalem, il avait besoin d'une monture. Alors il a envoyé 2 disciples à Bethphagée, et puis il dit, vous trouverez là un ânon, vous le détacherez, puis si on vous demande quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. C'est la seule fois qu'il est dit que le Seigneur avait besoin de quelque chose. Il avait besoin d'un âne. Eh bien, soyez le petit âne du Seigneur. Le Seigneur s'asseyera sur le petit âne, puis vous porterez son nom partout. C'est ça qui compte, porter le nom du Seigneur. Que le Seigneur soit vu. C'est pas l'âne qui est vu. On a mis les habits des disciples sur l'âne. L'âne est couvert. C'est pas l'âne qu'on regarde, ses longues oreilles, non. C'est le Seigneur qui est sur l'âne. Pour nous, c'est ça qui compte. Le Seigneur. Alors que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie. Oh, vous savez, hein, c'est bien la philosophie. Vous voulez être philosophe. L'étude rationnelle de la pensée humaine dans toutes sortes de domaines. Vous aurez des titres, vous serez docteur en philosophie. Magnifique. Attention, quelle est cette philosophie? L'étude de la pensée humaine, elle vient d'où? Du monde. Qui est-ce qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Alors, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais aux choses des hommes. Arrière de moi, Satan. Alors, faites attention. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Il se présentera à vous, philosophe, très religieux. Et c'est une vaine tromperie. s'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition, c'est ce qu'on a reçu d'autres hommes. Sur les rudiments du monde, on pourrait méditer longuement sur ce que sont les rudiments du monde, ou sur les éléments du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Jean nous le dit. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Attention à cela. Et non sur Christ. Ah mais, l'arbre, le fruit de l'arbre pour Ève paraissait bon à manger. Hein. Il était agréable à la vue. Et puis il devait rendre intelligent l'orgueil de la vie. Alors faites attention à cela. Est-ce que c'est sur Christ que l'on s'appuie? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez que cette plénitude dont on a déjà parlé au chapitre 1er revient aussi au chapitre 2. Toute la plénitude de la divinité habite en lui, corporellement. Et alors verset 10, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous avez, est-ce que c'est vrai? Vous avez tout médiocrement? Vous avez tout pleinement? Revenez à ce pleinement, ça revient plusieurs fois dans cet épître. Pleinement en lui, est-ce que c'est vrai? Mais moi je veux savoir si c'est vrai. Est-ce que vraiment on a tout pleinement en lui? Il est le chef de toute domination, de toute autorité. De quelle domination? Mais ces dominations qui sont dans les lieux célestes. Mais on connaît tellement peu de choses des lieux célestes qu'on ne sait pas ce que c'est que ces dominations. Mais il y a des dominations, il y a des pouvoirs, il y a des puissances. Relisez un peu tout ce que saint Paul nous dit dans les Éphésiens aussi. Il y a toute une hiérarchie chez les anges. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Vous savez que les Juifs devaient porter dans leur chair la marque de leur appartenance au peuple juif. Et pour les hommes, c'était donc la circoncision, l'ablation d'une partie du prépuce chez les hommes. Et ça devait se faire à l'âge de 8 jours. Mais cette circoncision, ce n'était qu'une figure d'une mise à part qui ne devait pas être simplement faite dans la chair, mais dans le cœur. Parce que vous pouvez enlever une partie du prépuce et puis vivre comme un incirconcis. Les incirconcis, c'était les païens, n'est-ce pas? Mais le peuple juif portait dans sa chair la marque de son appartenance au Dieu vivant. Mais s'il ne manifestait pas cette relation avec le Dieu vivant, c'était pire que d'être incirconcis. Comprenez-vous? Alors, il n'est pas question d'une circoncision faite demain, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est pas seulement une parcelle de votre chair qui doit être ôtée, c'est le dépouillement de toute la chair, de tout ce qui est charnel en vous. Et cette circoncision du Christ, elle a eu lieu où? À la croix. Et cette circoncision, c'est la mort. Comprenez-vous? La circoncision du Christ, c'est sa mort. Et vous devez être circoncis de la circoncision du Christ. C'est-à-dire, vous devez accepter de mourir. Que la mort de Jésus devienne votre mort. Comprenez-vous? C'est ça la circoncision. C'est pas simplement... Par exemple, si on veut faire un rapprochement entre la circoncision et le baptême, ben vous vous faites baptiser, ça y est. Non? Le baptême, oui, nous identifie au Christ dans sa mort, mais il faut que ce soit vrai. Et car votre vie passée, vous ayez réellement renoncé pour vivre désormais de lui cette vie nouvelle. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Au fond, tout ce qui s'est produit en Jésus se reproduit en vous. Quand vous acceptez le Christ, où vous conduit-il? Si tu veux me suivre, prends ta croix. Ça veut dire, viens à la croix. Et puis là, il est exécuté. Mais quand il a été exécuté, nous avons été exécutés en lui. Il est venu pour rendre possible notre mort. Il est mort, nous sommes morts en lui. Mais il est ressuscité, et alors, nous sommes ressuscités avec lui. Il nous a ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. La puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, vous ressuscite en lui. Aussi réellement que Christ a été ressuscité, vous êtes en lui ressuscité. Mais évidemment, par la foi. Verset 13. Vous étiez morts. Alors, ça, c'est la mort spirituelle. On se croyait vivant et on était mort. Vous étiez morts par vos offenses et dans l'incirconcision de votre chair. Notre chair n'étant pas circoncise, c'était la chair qui se manifestait. Il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Vous rendez-vous compte? Maintenant que vous êtes en Christ, quand vous pensez à vos offenses, qu'est-ce qu'il y a du côté de Dieu? La grâce totale. Il vous a fait grâce de toutes vos offenses. Mais un coup d'éponge? Non. Il a expié vos offenses. Il a expié vos péchés. Le salaire du péché, c'était la mort. Eh bien, il est mort. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La loi, hein? Qu'est-ce qu'elle faisait, la loi? Elle nous condamnait. Eh bien, cette loi, elle a été satisfaite à la croix. De sorte que l'acte qui nous condamnait, c'est-à-dire la loi, eh bien maintenant, est-ce que vous êtes encore sous la loi? Non. Tout cela s'est passé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, parce que c'est vrai, la loi subsistait contre nous. Elle disait, faites ces choses et vous vivrez. Et comme on ne les faisait pas, on était condamné. Alors, si vous êtes encore sous la loi, vous êtes toujours condamné. Est-ce que vous le comprenez? Si vous êtes encore sous la loi, vous êtes toujours condamné. Or, en Christ, on n'est plus sous la loi. La loi, c'est lui qui l'a subie. Je méritais la mort, mais c'est lui qui est mort à ma place. Mais la loi n'a plus de pouvoir sur moi. Une fois que l'homme est mort, la loi est satisfaite. Justice est faite. Justice est accomplie. Alors, il l'a détruit en la clouant à la croix, et non seulement il nous a débarrassés de ce joug de la loi, mais il a dépouillé les dominations, les autorités, toutes ces puissances dont nous parle Éphésiens 6, ces puissances spirituelles de méchanceté, toute la puissance du diable, toute la puissance de Satan. Il les a livrés publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Quelle chose extraordinaire. Les gens criaient en passant devant la croix, que Dieu le délivre s'il tient à lui. Que Dieu le délivre. Et il n'est pas descendu de la croix. Ben, s'il était descendu de la croix, est-ce qu'il aurait pu faire, hein? Qu'est-ce qui nous serait arrivé? Nous serions encore dans nos péchés. Nous serions perdus. Mais il est mort. Et son triomphe, il l'a dans sa résurrection. C'est beaucoup plus grand de ressusciter d'entre les morts que de descendre de la croix. Jésus n'est pas un décloué pour nous. Je n'ai pas un sauveur décloué. J'ai un sauveur crucifié. Vous l'avez bien compris ça. Christ a été crucifié pour moi. J'ai un sauveur crucifié. Et l'apôtre Paul dit aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, mais je le vis selon la chair, non. Je le vis dans la foi, en l'autre. Je le vis dans l'autre. Ma vraie vie, elle est en qui? Elle est dans l'autre. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est merveilleux. C'est le triomphe de la croix. Alors maintenant, si cela est si vrai, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Et c'est cela que vous avez dans les sectes. Toujours on revient avec ça. Bon, je suis bien d'accord que c'est très bien de manger d'une façon convenable et que nous aurions bien des choses à apprendre au sujet de la nourriture. À Hearst, nous avons traité le sujet « Le chrétien dans la vie pratique » et j'ai montré le chrétien dans le travail, dans les jours ouvrables, dans notre travail quotidien, parce qu'on doit travailler. Pas de dire, oh ben moi, pourquoi est-ce que je travaillerais? Je suis sur le bien-être social. Puis tant que je suis sur le bien-être social, ben j'ai du temps pour le Seigneur. Grâce au bien-être social, je peux évangéliser. Alors vous évangélisez quelqu'un, puis ce quelqu'un vous dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis sur le bien-être social. Je suis heureux qu'il y ait le bien-être social. J'en suis très heureux pour ceux qui le méritent, pour ceux qui doivent l'avoir. Mais fais attention. Le travail, c'est une institution divine. Et même si votre salaire est même moindre, il vaut mieux travailler que de se dire bah, « je suis là-dessus ». Parce que c'est ça votre témoignage. Parce que sans ça, les gens vous diront, ben alors, au fond, c'est moi qui vous paye pour évangéliser. Les incrédules, je vous dirai. Gardons-nous de cela. Voyez-vous, il faut réagir à certaines choses. Je ne condamne pas le bien-être social, loin de là. Je suis heureux pour tous ceux qui en ont besoin. Mais faites attention. C'est notre témoignage. Alors, on a parlé du travail, puis on a parlé aussi, là, à Hearst, du chrétien à table. Le chrétien à table, il rend grâce pour tous les aliments que Dieu lui donne, mais il ne mange pas n'importe quoi non plus. Dieu vous a donné une intelligence. Puis, quant à la quantité aussi. Alors, demandez, instruisez-vous. Mais ne pensez pas que c'est ça qui va vous sauver. Ça sera bon pour votre corps. Une nourriture saine. Mais ne vous laissez pas juger sur votre manger ou sur votre boire, ou seulement au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, parce qu'on veut toujours ajouter quelque chose au Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Et en Christ, vous aurez aussi votre régime, le régime qui vous convient. Comprenez-vous? C'est lui qui compte. Le Seigneur vous donnera, il vous instruira. Vous savez que les cuisines du ciel ont préparé le repas de qui? D'Élie, hein, et de bien d'autres. L'ange dépose près d'Élie, qui était fatigué, la nourriture, puis lui dit, mange. Parce que le chemin est long pour toi. Et Élie est allé avec les forces que lui avait donné cette nourriture. Et le Seigneur lui-même aussi a préparé à dîner après sa résurrection. Venez dîner, enfant, venez dîner. C'est merveilleux. Le Seigneur va vous instruire au sujet de ce que vous pouvez manger. Alors vous l'avez en Christ, le régime. Si ça vous convient d'avoir un régime végétarien, bien mangez du végétarien. Si ça vous convient d'avoir un régime carné, mangez de la chair. Parce que c'est le Seigneur aussi qui a donné ce régime-là à Noé, après le déluge. Mais la vie chrétienne, elle n'est pas faite de manger et de boire. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, sainteté, dans la vérité. Alors qu'aucun homme... Mais tout cela, il est dit, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament et auquel Israël devait se soumettre, c'était l'ombre des choses à venir.